France Culture, Philippe Garbi, Alban Penaranda, Christine Goémé, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 6h30. Nuit spéciale, Léo Malin. Première nuit spéciale Léo Malet. Oui, il y aura deux nuits spéciales Léo Malet. La deuxième sera diffusée, comme il se doit, samedi prochain, à la même heure. Et peut-être aurions-nous pu décider de parler cette nuit d'un Léo Malet. Le poète surréaliste, par exemple, l'auteur de « J'arbre comme cadavre »,« Ne pas voir plus loin que le bout de son sexe », »,« Hurle à la vie »,« Vie et survie du vampire »,« Jour des morts »,« Nuit des vivantes »,« Le frère de Lassner », etc. On aurait parlé des romans publiés par Malet sous pseudonyme, Frank Harding par exemple, c'était pour son héros Johnny Metal, Mike Roland, c'était un autre héros, Léo Latimer, on prononce Latimer, Cédric Perolini ?
Oui, on prononce Latimer.
Bonsoir Cédric Perolini.
Bonsoir Philippe Garbi.
Alors, est-ce qu'on prononce Homer Réfrigère ou Réfrigé ?
Moi je prononce Réfrigé, mais je ne suis pas certain d'avoir raison.
Voilà, Lionel Doucet.
Oui.
Bon, ça voilà, quelques pseudonymes de Léo Malet. Mais aussi on aurait pu parler des chansons, des récits de ses rêves par Léo Malet lui-même. Et puis la semaine prochaine on se serait attaqué au Léo Malet, le père de Nestor Burma. Mais non, alors ce n'est pas le plan choisi pour ces deux nuits. Deux nuits qui trouvent place 20 ans et quelques mois, à vrai dire, après la mort de Léo Malet. Alors c'est un anniversaire qui a été assez peu célébré cette année, me semble-t-il. Mais je me demande si à la mort même de Léo Malet, on avait vraiment célébré le jour même ou le lendemain de sa mort. Est-ce qu'on avait célébré Léo Malet ? Est-ce qu'on s'était mis à dire « attention, Léo Malet est mort » ? Ou est-ce qu'au contraire, il y avait eu quelque chose qui aurait peut-être détourné l'attention des auditeurs et des lecteurs ?
Alors je crois bien que de la même façon que c'est la mère Denis qui était morte le même jour que Narce Jacques, me semble-t-il, c'est Marguerite Duras qui est morte le même jour que Léo Malet. Et la mort de celle-ci a largement éclipsé la mort de celui-là.
Alors c'est en votre compagnie, Cédric Perolini, que nous allons donc débuter cette première nuit spéciale consacrée à Léo Malet. Vous qui l'avez fréquenté abondamment, à titre posthume j'entends, parce que vous l'avez fréquenté d'un point de vue universitaire, puisque un grand nombre d'années je suppose, puisque le livre que vous avez signé, Léo Malet, Mauvais sujet, Nestor Burma passe aux aveux, publié chez Latinoir, eh bien c'est tiré d'une thèse de doctorat soutenue à l'Université Paris 3 en 2009. Alors est-ce qu'il était facile en 2009, enfin, si vous l'avez soutenu en 2009, je pense que vous l'avez présenté quelques années avant à votre professeur, votre directeur de thèse, est-ce que c'était facile, c'était un sujet qui était dans l'air du temps ou plus du tout?
Bon, j'ai pas le mérite des pionniers, hein. Le premier travail universitaire qui a été consacré à l'œuvre de Léo Malet, c'est à Noé Gaillard qu'on le doit.
En quelle année ?
1979.
Du vivant donc de...
Oui, oui, oui. Et on a une correspondance Noé Gaillard-Léo Malet qui est assez intéressante, qui s'étend sur de longues années et puis qui couvre une période biographiquement douloureuse pour Malet puisque c'est la période du décès de sa femme. Mais donc voilà, Noé Gaillard, c'est lui qui a un petit peu défriché, qui a ouvert la voie. Je pense qu'en 79, c'était peut-être plus difficile de vouloir faire de la littérature populaire, de la littérature policière en particulier, un objet d'études universitaires, dans le cadre académique. Voilà. Après, je crois quand même que l'université s'est ouverte largement. J'ai pas eu beaucoup de difficultés à trouver différents directeurs de recherche qui ont accepté de m'accompagner, d'abord dans le cadre d'un mémoire de maîtrise, puis de DA, puis une thèse de doctorat. Alors j'ai changé de directeur de recherche, mais j'ai pas eu de difficultés particulières à être accompagné dans mon travail.
Personne ne vous a dit, mais enfin c'est pas possible, c'est pas de la bonne littérature, puisque c'est de la littérature policière.
On m'a mis en garde. Ah. On m'a dit que dans la mesure où je m'attends taquait à un continent parfois dévalorisé de la littérature, il fallait que je compense par une rigueur dans l'approche, etc. Voilà, mais ça, c'est un avertissement qui a, c'est jamais allé au-delà. J'ai pas reçu de petits cercueils dans ma boîte aux lettres. Non.
De menace. Alors nous, en tout cas, on va être avec la grande rigueur habituelle des nuits de France Culture. On va diffuser cette nuit et puis la nuit dans une semaine aussi de la fiction, bien entendu, signée Léo Mallet. Cette nuit, on pourra entendre Contredanse pour maître chanteur, signée Léo Mallet et Ralph Messac. C'est diffusé dans l'émission de Pierre Véry, Fait divers. C'était en 1957 sur la chaîne parisienne. Puis Colique de plomb, une adaptation de Roger Richard dans Les Maîtres du Mystère, c'était à peu près à la même époque, non un peu plus tard, en 1960, sur France 2 régionale, puis Gros plan sur le mort, également dans Les Maîtres du Mystère. Mais aussi bien, on entendrait évidemment Léo Mallet lui-même au micro d'Hubert Join, c'est une rencontre qu'il avait eue avec donc Hubert Join en 1976. Et puis, on rencontrera aussi au milieu de la nuit Emmanuel Moineau, qui est le scénariste et dessinateur du dernier opus adapté des romans de Léo Mallet et des histoires de Nestor Burma, mais pas des nouveaux mystères de Paris. Là, on quitte Paris, enfin on y revient aussi, c'est dans Nestor Burma contre CQFD, publié chez Casterman. Voilà, alors, donc, votre livre, Cédric Perolini, alors, c'est plus une analyse de l'œuvre qu'une biographie. C'est pas une biographie en 1000 pages qui nous dit absolument chaque jour ce qu'a pu faire Léo Mallet de sa naissance à Montpellier jusqu'à sa mort. Peut-être a-t-il appris la mort de Marguerite Duras et n'a-t-il pas... En est-il mort? On ne sait pas. Édith Piaf et Cocteau sont morts le même jour aussi et c'était peut-être... Non, alors...
Oui, il était devant sa télé, c'est peut-être... C'est peut-être un indice. Ouais,
et on ne saura jamais. Alors, Cédric Perolini, alors... donc, une analyse ou une biographie ou...
Alors, en fait, comme vous l'avez dit, c'est la refonte d'un travail universitaire. Il a fallu aussi que je retravaille, que je réadapte le plan, que je fasse subir à l'objet une cure d'amaigrissement assez sévère. Et donc, il s'est posé la question de l'organisation du travail et de son contenu. Est-ce que j'allais avoir une approche plus biographique, plus littéraire, plus stylistique, plus analytique? Je crois que Léo Mallet fait pas encore partie de ces auteurs pour lesquels on pourrait faire l'économie de la biographie. Il n'est pas très connu comme peut-être Marguerite Duras ou Simenon. Donc, il m'a semblé intéressant pour un lecteur qui serait relativement peu familier de l'œuvre de Mallet d'avoir l'approche biographique, mais pour pas faire une approche strictement biographique, la mettre en relation, en lien avec l'œuvre elle-même et avoir cette approche, cette lecture autobiographique de l'œuvre. C'est pour ça que la première partie, un petit peu longue, c'est à la manière de Léo Mallet par lui-même. Léo Mallet tel que lui-même se raconte dans ses différents ouvrages, mais dans ses poèmes autobiographiques aussi, en remettant ça dans une perspective biographique, autobiographique, mais qui n'est pas forcément la plus littéraire dans l'approche. Voilà. Même si il me semble que dans la mesure où l'œuvre autobiographique est pour Léo Mallet l'occasion de se poser la question de sa propre identité, mais bon, c'est peut-être plus un enjeu psychologique que littéraire à proprement parler. Mais par contre, par la suite, j'essaye d'avoir des approches plus littéraires, un peu plus stylistiques ou un peu plus thématiques sur différents aspects de son œuvre.
Alors il y a la biographie aussi de Nestor Burma, mais là, le détective créé par Léo Mallet, mais c'est peut-être plus en compagnie de Nadia Doucard la semaine prochaine, donc qui est l'auteur de la nouvelle édition chez Robert Laffont en collection bouquin, donc des aventures de Nestor Burma et puis d'autres romans, enfin les premières aventures de Burma et puis les nouveaux mystères de Paris. C'est avec Nadia Doucard la semaine prochaine plutôt qu'on parcourra la biographie de Nestor Burma qui évidemment, on le sait bien, recoupe celle évidemment de Léo Mallet. Léo Mallet d'ailleurs qui parle au micro d'Hubert Join, je l'ai dit, mais qui dit ce qu'il veut au micro d'Hubert Join. On sait que il a aussi écrit La Vache enragée, enfin c'était tout. Et puis en effet, on a l'impression de trouver du Léo Mallet, des petits détails biographiques dans nombre de romans. Moi j'aimerais parler avec vous, Cédric Perolini, du Léo Mallet. Vous n'avez peut-être pas envie d'en parler, mais tant pis. Il est né en 1909, il est mort, il avait presque 87 ans. Et j'aimerais qu'on parle de l'homme vieillissant, c'est-à-dire on commence par la fin, en somme. Lui qui a écrit « Je suis devenu réactionnaire en vieillissant, car toutes les maladies vous atteignent », et qui se demandait, je crois que c'est dans La Vache enragée, « Que penserait mon double de 17 ans au drapeau noir du Léo Mallet d'aujourd'hui ?» Beaucoup de mal, certainement. Lui était révolutionnaire et moi, je ne le suis plus. Fin de citation. Il était loin d'être révolutionnaire les 20 dernières années ou les 30 dernières années de sa existence.
Oui,
de son existence.
Loin de l'être, même s'il y a des révolutionnaires nationalistes. Mais, donc, d'une certaine façon, vous nous proposez de commencer l'enquête à partir du cadavre.
Voilà.
On commence par la fin.
Comme cadavre, c'est un
peu. C'est ça, c'est ça. Et on va essayer de reconstituer la biographie de Mallet par la fin. Alors, effectivement, on peut commencer par la fin. La fin s'explique par l'ensemble de son parcours et par l'ensemble des déconvenues qu'il a eues, me semble-t-il. Il a une formule qui me plaît beaucoup. Il dit, voilà, écrire des romans à 30 ans et être reconnu 40 ans plus tard, c'est pas une réussite, c'est la consécration d'un échec. Et je crois que, voilà, avec cette espèce d'humour, cet auto-cynisme d'une certaine façon, on voit bien qu'il essaye de se confronter à énormément de douleurs, de frustrations, et c'est peut-être ça qui explique effectivement son amertume, qu'il manifeste parfois avec le plaisir de la provocation à de nombreuses reprises à la fin de sa vie.
Mais d'ailleurs, cette formule que j'avais notée également dans votre livre Léo Mallet, Mauvais Sujet, écrire des livres à 30 ans et n'être reconnu que 40 ans plus tard, ce n'est pas une réussite, c'est la consécration d'un échec. On pourrait très bien inverser. Moi, je trouve qu'il vaut mieux, finalement, alors, il a mangé de la vache enragée, on n'était pas avec lui, le pauvre, parce qu'il a eu une vie très difficile, hein, d'un point de vue pécuniaire. Mais pour autant, bon, bah, si les 30 dernières années, on est reconnu par ses pairs, on est reconnu par la nouvelle génération des auteurs de romans policiers, et puis après tout, on arrive dans la collection bouquins, on est réédité, etc., bah, c'est quand même mieux que d'être inversement, oui, totalement oublié après une période de gloire.
C'est vrai. Mais peut-être que, alors pour la postérité, on est peut-être pas mécontent que Léo Mallet ait eu cette trajectoire-là, mais du point de vue de l'écrivain lui-même, je crois qu'il aurait bien aimé manger trois fois par jour plus souvent. Et c'est un homme du peuple, c'est un homme modeste, hein, mais qui a une véritable conscience, me semble-t-il, de sa valeur, de la valeur de son expérience, de son parcours. Il sait qu'il a côtoyé les plus grands esprits du siècle, notamment dans la période surréaliste. Il était extrêmement fier d'avoir été le compagnon de route des surréalistes. Et de voir que, pendant que d'autres s'en tiraient, y compris financièrement beaucoup mieux que lui, lui tirait le diable par la queue et mangeait de la vache enragée, hein, ça n'a pas amélioré son caractère. Et je crois qu'il a un côté désespéré, contre lequel il a lutté par l'humour noir. Mais ce côté désespéré, quand la mort le cerne d'aussi près, hein, à la fin des années 70 et au début des années 80 avec la mort de sa femme, voilà, il est vraiment confronté à des sentiments d'amertume. C'est un orphelin qui, toute sa vie, a cherché des familles d'adoption. Et d'une certaine façon, la famille d'adoption qui s'est trouvée à la fin des années 70, pendant les années 80, c'est ce qu'on a appelé la nouvelle droite, avec Michel Marmin, qui a été très proche de lui à ce moment-là, qui l'a accompagné, qui l'a accueilli dans un cercle de pensée, d'un mouvement d'idées. Et voilà, Mallet avait besoin aussi, je crois, de tisser des liens, de nouer, de se reconstruire une famille intellectuelle. Ce qui explique, à mon avis, ce compagnonnage avec cette nouvelle droite, ou cette droite dure, ou cette extrême droite, hein, selon comment on veut bien l'appeler, des années 80 jusqu'à sa mort. Hein, quand on lit le journal secret, quand on lit les interviews qu'il donne à la télévision, à la radio ou à Libération, il en rajoute, hein, dans la provocation, dans des manifestations de xénophobie. Et alors après, quand on lui pose la question, il dit, mais attention, moi je ne suis pas allé raconter ça à un journal d'extrême droite. Je suis allé dire ça à Libération. C'est-à-dire à ceux qui étaient le plus susceptibles de mal interpréter. Mais voilà. Et il y a un désir de provocation, là. Et je crois que, bon, le Mallet réel existe, mais il est difficile à atteindre parce qu'il se cache derrière des masques. Alors, le masque, ça peut être Nestor Burma, comme l'a très bien dit Francis Lacassin. ces masques, c'est aussi l'attitude qui va opposer à celui qui va l'interroger. Il a une psychologie très riche, très complexe, et il va s'amuser, parfois, par provocation, à opposer à celui qui est en face de lui le discours le plus susceptible de le choquer.
Il y a ce compagnonnage ou cette proximité avec la nouvelle droite, vous le dites Cédric Perulini, mais il y a aussi finalement la reconnaissance par le néo-polar qui est plutôt du côté de la gauche extrême ou de l'anarchisme dont il vient.
Oui. Alors, par rapport au néo-polar, d'un côté, il est très content d'être reconnu comme un ancêtre par les auteurs de ce mouvement-là, mais d'autre part, il n'hésite jamais à leur mettre des petits coups de canif dans le dos, en expliquant que ils sont trop ancrés dans le réel. Là aussi, il a une jolie formule. Il dit à force de vouloir être témoin de son époque, on finit comme mis en accusation, comme suspect, hein, comme coupable presque. Et puis le néopolar n'est pas univoque idéologiquement non plus. Hein. Le néopolar, c'est bien sûr Manchette, c'est d'autres auteurs dans la gauche libertaire, bien sûr, mais c'est aussi des auteurs de droite ou d'extrême droite comme ADG par exemple. Mmh. Et Léo Mallet lui envoie des clins d'œil amicaux. Hein. Le corpus idéologique du néopolar n'est pas non plus très cohérent. Et Mallet, là-dedans, son parcours fait qu'effectivement, il va pouvoir dialoguer avec tout le monde, y compris pour provoquer tout le monde. Et de la même façon qu'il va s'amuser à provoquer Libération en tenant des propos qui vont déranger les journalistes, il va s'amuser à dire au journal anarchiste La Rue que finalement, on est très bien dans cette démocratie bourgeoise. Voilà, il va toujours s'amuser à... Et je suis presque persuadé que... Face aux membres de la Nouvelle Droite qui animaient la revue Éléments, il a très bien pu tenir des discours
anar, de gauche.
Tout à fait.
Mmh. Voilà, faut pas qu'on effraie trop les auditeurs qui éventuellement ne connaîtraient pas les Léo Mallet romanciers, en tout cas les aventures de Nestor Burma. Vous avez dit xénophobie, on peut parler de racisme, etc. En effet, comme dans nombre de romans des années 50 où vraiment il y a des formules qui sont tout à fait choquantes, enfin, et pas seulement en France, on le sait bien. Pour autant, si on s'intéresse de nuit ce samedi et samedi prochain à Léo Mallet, c'est qu'on est un certain nombre quand même à penser que c'est un grand écrivain. Et alors, oui. En quoi, Cédric Perulini? Vous n'avez pas passé des années sur ce mauvais sujet qu'est Léo Mallet sans penser que c'est un grand écrivain? Ce qui ne veut pas dire grand-chose, grand écrivain,
oui, c'est un écrivain qui est original, qui est intéressant, qui est passionnant, qui est polémique. C'est une bonne porte d'entrée pour réfléchir sur la littérature, en ceci qu'il a quand même ce grand écart entre, d'une part, une littérature, pour ne pas dire élitiste, exigeante, comme l'a été le surréalisme, et d'autre part, une littérature de consommation de masse, comme peut l'être le roman populaire, et le roman policier en particulier. Et donc, dans cet éventail, dans ce panel hein, très large de sensibilité littéraire, Mallet a été reconnu par les siens, quels qu'ils aient été, quels qu'ils fussent. Dans le groupe surréaliste, c'est une personnalité importante, dans le groupe des années 30. Il est cité dans le dictionnaire abrégé du surréalisme. Il est reconnu en tant que tel, en tant qu'inventeur de procédés. Les auteurs de romans policiers le citent systématiquement comme un de leurs ancêtres à partir des années 80, mais comme un de leurs confrères dans les années 40-50. C'est vraiment, effectivement, une personnalité intéressante à ce niveau-là. Et puis, c'est aussi un enfant du peuple qui écrit. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont issus des classes sociales privilégiées et qui s'en canaillent, qui vont avoir le sentiment de s'en crapuler un petit peu en explorant sociologiquement les couches populaires ou linguistiquement l'argot. Chez Mallet, c'est une connaissance qu'il a dans son ADN. Il est né. Il n'est pas devenu Nestor Burma, il est né Nestor Burma, d'une certaine façon. C'est son parcours d'orphelin, c'est son parcours de jeune militant anarchiste qui l'a amené à connaître la vie du côté mouise, hein, les difficultés de la vie. Et c'est sur ce fumier qu'il a fait son terreau fertile. Hein. C'est à partir des figures qu'il allait puiser dans ces milieux marginaux, que ce soit la marginalité économique ou la marginalité politique, qu'il a construit ces personnages de Nestor Burma, de Bellita, enfin tous ces personnages qui hantent son œuvre romanesque.
Oui, alors donc orphelin très jeune, enfin nourrisson quasiment, oui. Récupéré, adopté, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un oncle s'occupe, s'occupe de
son grand-père, oui, son grand-père maternel.
Voilà, mais les gens s'en occupent bien, voilà,
oui.
Qui sera donc un des pseudonymes de Mallet. C'est pas une enfance malheureuse, pour autant, non. C'est une enfance pauvre, mais c'est surtout un jeune adolescent qui veut aller à Paris.
Oui,
c'est un principe ça, et qui va mal vivre, enfin qui va là crever de faim réellement. Comment ça se passe? Enfin, il quitte Montpellier, il monte dans un train sans payer, bien entendu.
Oui, alors non, le voyage aller, il le paye.
Ah.
Donc il quitte très tôt les taux.
Il ne brûle pas le dur.
Non, pas à ce moment-là. C'est pour revenir. Mais quand donc il quitte assez rapidement l'école parce que voilà, ça ne l'intéresse pas trop. Il commence à travailler. Comme être comptable, notamment dans une banque à Montpellier. Et puis, il s'intéresse à l'anarchisme, suite à un fait divers. Le petit-fils d'Alphonse Daudet est retrouvé mort. Donc, Philippe Daudet est retrouvé mort dans un taxi. Il venait de voir des anarchistes. Son père était député royaliste.
Alors, tout ça, oui. Petit-fils voilà. D'Alphonse, mais fils de Lucien.
Et fils de Léon Daudet, oui.
De Léon, pardon. Oui, neveu de...
Voilà. Et donc, Mallet se passionne pour cette histoire, se rapproche des anarchistes, et quand un des orateurs phares du mouvement, Colomère, vient à Montpellier, Léo Mallet au culot, il va, le rencontre, lui fait lire ses poèmes. Colomère passe dans l'insurgé un article que Léo Mallet a écrit sur la grève dans le milieu de la banque. Et alors, c'est pas comme... voilà, il a des revendications assez radicales, il demande une augmentation de 50%. Hein. Mais son patron reconnaît son pseudonyme, qui était relativement transparent. Il avait juste retourné son nom, Noël Telam. Et donc, Léo Mallet, auréolé de ce licenciement pour raisons syndicales et peut-être politiques, avec l'argent qu'il vient de toucher, monte à Paris et débarque chez Colomère au culot en lui disant « Voilà, j'ai été viré pour raison syndicale.
Il faut me loger. »
Voilà, il faut me loger. Maintenant, c'est pas tout de mettre les gens dans la difficulté. Il faut que la solidarité anarchiste joue à plein et il faut m'héberger. Voilà. Et c'est là qu'il va être orienté vers le foyer végétalien de la rue de Tolbiac qu'on va retrouver dans ses romans.
Brouillard au pont de Tolbiac.
Voilà, notamment, oui. Et puis là, bon, bah, c'est la mouise, quoi. C'est la vraie mouise. C'est-à-dire qu'il va multiplier les petits métiers comme journalier parce qu'il n'a pas la possibilité matérielle d'attendre la fin du mois pour commencer à manger, quoi. Donc,
il va être chansonnier aussi.
Il va être chansonnier parce que, voilà, il y a déjà cette approche satirique dès l'enfance. Hein, il monte à Paris, il a 16 ans. Hein. Dès l'enfance, il y a cette approche satirique. Il aime se moquer de l'actualité. Il aime. Donc il a cette demi-carrière de chansonnier, il n'est pas vraiment payé, hein. Il est nourri à peine, et il va surnager, survivre pendant quelques années, jusqu'à sa rencontre avec Paulette Doucet, qui deviendra sa femme.
Alors vous avez cité l'affaire Philippe Daudet, il serait peut-être bien, Cédric Perulini, que vous en disiez quelques mots, parce que j'ai l'impression quand même que c'est vraiment le fait divers marquant, De cela va découler l'écriture, en tout cas le goût pour le mystérieux. Il y avait eu les lectures d'enfance, bien sûr.
Bien sûr. Tout.
Mais pour autant, là, il y a le réel, un fait divers se passe, il en est contemporain. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé, par définition. Sinon, c'est le principe des faits divers, quand on sait tout, au bout de 15 jours, on oublie. C'est quand il reste un mystère au fil des ans que ça reste quelque chose de romanesque, finalement.
Oui, je crois que
ça le devient.
Oui, bien sûr. Le mystère qui entoure la mort de Philippe Daudet est pour beaucoup dans la vocation parisienne, en tout cas, de Léo Mallet, et peut-être policière.
C'est un adolescent comme lui.
Et voilà. Et alors, il y a effectivement des éléments d'identification importants. Ils ont sensiblement le même âge. Ils ont la même rage. Le jeune Philippe Daudet, donc, qui est le fils du député royaliste de Paris, qui est le chef de l'Action française, va au Libertaire, le journal de la Fédération anarchiste, rencontre Georges Vidal, le rédacteur en chef, et lui dit « Voilà, ça y est, je me suis découvert anarchiste et je veux commettre un attentat pour la cause. » Bon, il voudrait dégringoler un député royaliste, que ce ne serait pas plus étonnant que ça. Hein, il en avait un à la maison, il pouvait en profiter. Alors,
ce que les O'Malley n'avaient pas à faire, le meurtre du père, ça pouvait
pas
le conserver.
Non, ça avait été fait, oui. Il avait gagné beaucoup de temps là, par rapport à ça. Mais peut-être aussi dans les éléments de fascination qui ont amené Mallet à s'identifier à Philippe Daudet, il y avait peut-être aussi cette famille. Hein, Mallet écrit hein, dans un de ses poèmes de jeunesse, un enfant qui écrit à ses parents, voilà, qu'il aurait préféré être orphelin. Bon, alors la situation est différente en ce qui concerne Mallet, parce que lui, il a la chance de l'être au départ. Mais
donc, vous citez du Jules Renard, là, tout le monde n'a pas la chance, ou tout le monde.
Oui, c'est ça. Mm-hmm. Oui. Et donc, ce jeune Philippe Daudet, voilà, tient ce discours exalté devant Vidal, et Vidal le modère un petit peu. La grande vague du terrorisme anarchiste,
c'est fini.
C'est fini. La propagande se fait plus par la presse que par le. Même si les relations sont extrêmement tendues à ce moment-là, puisque à exactement la même période, Germaine Berton, une militante anarchiste, va assassiner Marius Plateau, qui est un des collègues hein, dans l'Action française. De Léon Daudet. Donc les relations sont extrêmement tendues à ce moment-là entre les anarchistes et les monarchistes. Bref, Philippe Daudet est un petit peu éconduit et il va chez un libraire, le Flautère, qui il tient un petit peu le même type de discours et il s'avère que le Flautère est un indicateur de police. Et donc le Flautère fait son travail d'indicateur, il lui dit « Oui, c'est très bien ce que tu dis, je devais te présenter des gens intéressants, reviens cet après-midi. » Et quand Philippe Daudet revient, effectivement, il y a une souricière policière, il est arrêté, mis dans un taxi, envoyé au très policier 36 quai des Orfèvres. Et quand le taxi arrive, on découvre le corps de Philippe inanimé, mort. Hein, dans le...
Ça, c'est votre version, parce qu'il y a, d'autres versions. Cédric Perlini, on le retrouve dans un taxi, il est censé se suicider.
Alors,
mais la souricière n'a pas eu lieu. Oui.
Il est mis par la police dans un taxi. Mm-hmm. On le retrouve mort. Alors les différentes versions, c'est est-ce qu'il s'est suicidé, découvrant qu'il aurait été manipulé par les anarchistes? Est-ce qu'il aurait été... assassiné, ou est-ce que une espèce de version intermédiaire, la police se serait montré un petit peu, voilà, aurait voulu le maintenir, lui serait débattu et un coup de feu serait parti. Ces différentes versions
Passionne en tout cas l'opinion publique, voilà. Parce qu'évidemment on sait, alors Daudet, le père quitte la France, enfin, bon,
oui.
on trouvera ça,
il donc, est incarcéré,
voilà,
hein,
il est incarcéré, oui. Mais il s'évade,
oui, il s'évade,
bon,
mais,
enfin, ouais.
Mais ça va quand même assez loin, hein, effectivement, et voilà, c'est comme ça que Léo Mallet entend parler de cette affaire, s'intéresse à l'anarchisme, va lire la presse du mouvement et se rapprocher, voilà, d'abord du groupe d'études sociales de Montpellier et ensuite va venir à Paris pour fréquenter les anars parisiens.
Alors ça, nous, on ne saura jamais vraiment la bonne version de l'affaire Philippe Daudet. Sauf que quand on devient romancier et que l'on écrit des romans policiers, comme Léo Mallet le décide au début de la guerre, enfin à son retour de captivité, eh bien, il vaut mieux quand même qu'on donne au lecteur le fin mot de l'histoire. Alors, quel va être son, finalement, puisque vous avez passé des années, Cédric Perlini, à lire tous les romans de Léo Mallet, vous devez avoir une idée de son travail, de sa méthode. Enfin, comme tous les écrivains qui écrivent des romans policiers, il faut en dire un petit peu, pas trop, faut pas qu'on comprenne trop vite, et puis parfois il faut, on a le détective qui est le narrateur. Alors c'est un peu plus complexe que s'il était observé par un ami, l'ami de Sherlock Holmes ou l'ami d'Hercule Poirot.
Alors, en général, on va commencer par voir la norme, puis après on verra l'écart à la norme. En général, il est conseillé à l'auteur de romans policiers d'avoir une idée au moins générale de l'intrigue avant de se lancer dans la rédaction. Ce que Léo Mallet n'avait pas toujours, disait-il, par euphémisme. Il avait cette idée assez rarement, en fait. Alors, ça a un inconvénient majeur, c'est que ses tiroirs sont pleins d'esquisses inachevées, de romans qu'il n'a pas su terminer.
Pour un chercheur, c'est pas... C'est au contraire, c'est ma bénie, non ?
C'est intéressant. Alors, certains de ces brouillons ont été, enfin de ces romans inachevés ont été, ont été édités par Francis Lacassin.
Mais, dans la première version.
Voilà. Parfois, on a eu des publications partielles dans telle ou telle revue. Voilà. Alors, ce que dit Léo Mallet de son propre mode d'emploi, parce que c'est un homme qui aimait raconter, c'est aussi un homme qui aimait se raconter, c'est que il part pas de l'intrigue. Pour son écriture, il parle d'un cadre. Par exemple, d'un arrondissement, dans le cas des Nouveaux Mystères de Paris. Ça peut être un cadre géographique, ça peut être un cadre sociologique, un milieu social à explorer, un milieu professionnel. Il va partir de personnages, et parfois ces personnages sont des types représentatifs du milieu, pour ne pas dire des caricatures. Le mystère va se construire par rapport à ce cadre. Et très souvent, le mystère, il va le puiser dans les faits divers associés à l'arrondissement, par exemple, dans les faits historiques qui s'y sont déroulés et qui vont l'inspirer librement. Il va prendre ces éléments-là et les combiner. Et la machine à lire qu'est le roman policier, c'est aussi une machine à écrire en ceci qu'il consiste à réorganiser des éléments traditionnel qu'on va retrouver systématiquement, un coupable, une victime, un témoin, finalement les alibis sont pas inépuisables, les mobiles non plus, on peut presque les ramener aux péchés capitaux, et donc dans cette machine à combiner, voilà, Léo Mallet va très bien s'en sortir. Alors, vous le disiez tout à l'heure, on a ce narrateur qui est le personnage principal. C'est le narrateur qui raconte lui-même sa propre histoire. Et vous avez
avec ses errances, avec ses erreurs parfois.
Exactement. Et c'est très important. Quand on a un narrateur comme Holmes pour Sherlock Holmes, Sherlock Holmes, Watson raconte l'histoire. Ça permet une économie narrative du récit. Par exemple, Watson va distiller les informations, Holmes va distiller les informations qu'a Watson, les faits, mais pas les déductions. C'est une façon de couper en deux l'instance de l'enquêteur pour permettre cette compétition avec le lecteur. Dans la narration à la première personne, qu'on appelle autodiégétique dans l'étude du récit, évidemment, il n'y a plus cette scission du narrateur et de l'enquêteur. Et Léo Mallet le dit, ça donne une liberté de ton extraordinaire. On n'est plus dans le roman à énigme traditionnel où je donne les indices à mon lecteur, mon enquêteur additionne 2 et 2, le lecteur doit additionner 2 et 2 de son côté, le premier qui arrive à 4 a gagné, hein, le roman jeu. On revient finalement dans le roman romanesque, le roman traditionnel qui va fonctionner par identification. Le lecteur va entrer en sympathie plutôt qu'en concurrence avec le détective. Et alors c'est vrai que cette narration à la première personne, elle va autoriser, c'est le droit à l'erreur. Elle va autoriser les errances et les erreurs, comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure. Mallet le dit, hein, je suis un autodidacte. En tant que tel, je n'ai pas étudié le discours. Le récit focalisation externe à la troisième personne, c'est quelque chose qui demande beaucoup de maîtrise. Alors que se lancer dans un récit à la première personne, ça autorise un certain nombre de maladresses qui passent pour, nous dit-il, un effet de l'art.
Et puis un effet de durée, parce qu'on n'a pas envie que ça se termine trop vite non plus.
Oui, c'est vrai qu'il y a cette espèce de fabrication effectivement d'un personnage attachant, qui est un personnage sériel, hein, qui va se décliner sur des années. Même si on est dans des séries à l'ancienne, où le point de départ et le point d'arrivée doivent être à peu près les mêmes pour que les éléments de la série soient interchangeables et qu'il n'y ait pas de parcours unique, mais vous en parlerez sûrement plus longtemps avec Nadia Doucard.
La semaine prochaine.
Voilà, il y a quand même cette biographie du personnage, et d'une certaine façon on le voit comme vieillir, pas forcément biologiquement, mais on voit ses idées se transformer, et en fonction des époques dans lesquelles il est plongé, hein, de la toute fin des années 30, hein, années 40, années 50, années 60, on le voit évoluer, on voit les interrogations qu'il se pose par rapport à l'évolution de la société par exemple.
Mais lui, par exemple, Nestor Burma, il semble beaucoup moins... On parlait de xénophobie tout à l'heure, enfin, les premiers volumes, alors les premiers romans écrits durant la guerre et qui se situent durant la guerre, donc en fait, il y en a deux, un peu plus. Non, il y a donc
Saint-Henri-de-la-Gare, Nestor Burma contre CQFD, il y en a très peu, il y en a 5.
Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de manifester de la xénophobie ou du racisme, parce que de toute façon, l'État français et l'occupant sont là, s'en chargent, d'où l'étrangeté, mais on revient peut-être mon interrogation sur la psychologie quand même de Léo Mallet, qui n'a pas été quelqu'un d'abject durant la guerre, pas une seconde, pas de propos antisémites, pas des cris racistes, etc., pas de collaborationnisme, voilà. Et qui a attendu finalement la fin des années 50 pour tenir des propos. Alors, dans les romans, ça passe, parce qu'après tout, un personnage, on ne sait pas s'il parle au nom de l'écrivain ou non, même si c'est Nestor Burma, mais pourquoi il a...
Cette histoire du racisme, je suis d'accord avec vous, on peut la remettre, et un certain nombre d'auteurs le font, dans la perspective historique.
La fin de la guerre d'Algérie. Enfin, la guerre d'Algérie.
Et puis les années 30, les années 40, effectivement, la guerre d'Algérie. Bon...
Il était surréaliste, l'internationalisme.
Exactement. Là où je suis un tout petit peu plus critique, c'est qu'effectivement, j'estime que avec les anars, avec les surréalistes, il a reçu effectivement cette éducation internationaliste. Il aurait pu se démarquer, faire preuve d'originalité aussi sur cette question-là. Mais bon, le premier texte qu'il a publié, il n'a pas 16 ans, il est question déjà des métèques qu'il coudoie et il en est. Il manifeste son malaise à cette occasion-là. Donc je pense que il y a un racisme qui est
familial, sans doute,
qui est présent chez Léo Mallet. Mais là où je tiens absolument à réhabiliter sa mémoire et son image, c'est que il n'a jamais hurlé avec les loups. Quand effectivement la France est occupée, il n'y a quasiment aucune allusion de type ethnique dans ses romans. Par contre, quand au moment de la libération, alors là, la France fait son mea culpa et lui, il se lâche. Quand dans la tension liée à la guerre d'Algérie, au début, il se surveille beaucoup. Et ensuite, quand, par exemple, dans les années 80, avec la gauche au pouvoir, alors là, il va se lâcher. À nouveau, il est toujours à contre-temps. Et il le dit, il a une formule comme ça. J'ai toujours été contre, et finalement, d'une certaine façon, en manifestant mon racisme à un moment où l'époque est à l'antiracisme militant, je suis toujours contre. Bon, il ne suffit pas d'être contre pour être dans le vrai, à mon avis, mais...
Alors, au cours de cette première nuit spéciale Léo Mallet, on va entendre donc, on l'a dit, contredanse pour maître chanteur de Léo Mallet, R. Ralph Messac, les maîtres du mystère Colique de Plomb, maître du mystère également Gros Plan sur le Mort, la nuit suivante, enfin le samedi prochain, Énigme au Musical, et puis Casse-pipe à la Nation. Vous, Cédric Perolini, quels sont les romans, les intrigues? Vous dites qu'il ne commence pas par l'intrigue, mais pour nous, lecteurs, il y a quand même une intrigue, et heureusement. Encore une fois, bien écrite, bien menée, et beaucoup mieux que des très nombreux auteurs des mêmes années qui écrivaient aussi beaucoup, ce qui était le cas de Léo Mallet. Il vivait de rien et il fallait donner de la copie, mais pour autant, c'est absolument jamais bâclé, semble-t-il. C'est quoi vos romans préférés, vous, après
juste avant
hors,
de vous répondre,
hors travail universitaire?
Oui, juste avant de vous répondre, je voudrais quand même rendre hommage, parce que permettre aux auditeurs comme ça de réécouter le théâtre radiophonique qui, à titre personnel, je n'ai jamais entendu. Hein. J'ai lu les textes,
vous
mais
allez les écouter,
jamais. Voilà, c'est donc ça, je trouve que c'est vraiment très très c'est vraiment une belle démarche. Alors, en ce qui concerne les romans qui me parlent le plus, mais alors là, effectivement, en laissant de côté toute approche un peu académique, c'est ceux où on reconnaît plus Léo Mallet à travers son personnage, ceux qui sont le plus autobiographiques. Et là, j'ai une affection toute particulière. Alors, je vais pas être très original, mais pour Brouillard au Pont-de-Tolbiac, parce qu'il y a cette exploration du 13e arrondissement, mais qui est aussi une exploration de sa jeunesse. Et une prise de conscience un petit peu douloureuse de sa propre évolution idéologique, puisqu'il se replonge dans les années 30, dans sa jeunesse anarchiste. Il y a peut-être aussi 120 rues de la Gare, mais là encore, hein, ce sont que des très très gros classiques, où il explore la période de la Deuxième Guerre mondiale. Et peut-être parmi les romans un peu moins connus, enfin relativement moins connus, il y a par exemple la trilogie noire, et notamment le premier volet, La vie est dégueulasse. Et alors là, on ne sait pas du tout du Nestor Burma. C'est vraiment un roman très très noir.
Mais il est plus présent dans le deuxième, Le soleil n'est pas pour nous.
Malais ?
Oui. Me semble-t-il, avec la prison déjà.
Oui,
on n'a pas dit, il a fait deux mois de prison à 16 ans.
Oui, pour vagabondage. Oui. Pour vagabondage.
On n'a pas tout dit, Cédric Perolini.
Bien sûr que non. Non. Mais c'est vrai que il y a cette partie très, très autobiographique dans l'œuvre. C'est vrai que cette trilogie noire est très importante. Et puis peut-être un dernier titre, Le dernier train d'Austerlitz, qui est lui aussi très autobiographique et qui est lui aussi très peu connu, et peut-être injustement.
Et on s'éloigne de Paris là.
On part de Paris.
Très bien. Eh bien, écoutez, on se retrouve en fin de nuit. Vous allez donc pouvoir écouter, comme tous les auditeurs de cette première nuit spéciale Léo Mallet, de nombreuses dramatiques signées Léo Mallet et puis adaptées par Roger Richard, par exemple. En tout cas, les Maîtres du mystère. Et puis les entretiens Léo Mallet et Hubert Join. Et on se retrouve en toute fin de nuit. On pourra redire un tout petit mot peut-être sur la trilogie noire, parce que vraiment, il faut en parler quand même.